Radio Prague, les informations.
Création d'une plateforme politique au sein de la social-démocratie tchèque. Le premier ministre Jiří Paroubek a été reçu par l'empereur du Japon. Un nouveau cas de maladie de la vache folle dépisté en Tchéquie. Une nouvelle plateforme politique a été créée au sein du Parti social-démocrate, formation principale de la coalition gouvernementale tchèque. Les membres de la plateforme appellent à la convocation d'un congrès extraordinaire de la social-démocratie qui se pencherait sur les changements dans la direction du parti, le programme électoral et un changement des statuts. Ils soutiennent la candidature du premier ministre Jiří Paroubek au poste de chef de la social-démocratie, occupé actuellement par l'ancien premier ministre Stanislav Gross. Dans le cadre de son voyage en Asie, le premier ministre tchèque Jiří Paroubek s'est rendu au Japon. À Tokyo, il a été reçu par l'empereur du Japon Akihito. Ils se sont entretenus sur Prague, la culture, la musique et sur les problèmes du réchauffement de la planète. L'empereur envisage aussi de lancer un concours de connaissances de la musique tchèque pour les écoliers japonais. Le gagnant du concours recevrait un prix du premier ministre tchèque. Un nouveau cas de l'encéphalite spongiforme bovine, appelée communément maladie de la vache folle, a été dépisté dans une ferme non loin de la ville de Semily en Bohême du Nord. Si le diagnostic est confirmé par des tests supplémentaires, il s'agirait du 20e cas de cette maladie sur le territoire tchèque. Les prix Gracias Agit, qui sont décernés chaque année aux personnalités ayant contribué par leurs activités à la bonne renommée de l'État et de la culture tchèque à l'étranger, ont été distribués ce jeudi au ministère des Affaires étrangères à Prague à des ressortissants de 12 États. Parmi les lauréats du prix de cette année, il y a entre autres Tomáš Baťa Jr., fils du fondateur de l'usine de la chaussure Baťa, qui s'est implanté dans de nombreux pays. Un autre lauréat du prix, l'écrivain et diplomate Viktor Fischl, qui vit en Israël, n'a pas participé à la remise des prix pour des raisons de santé. Météo. Ce jeudi, fête de toutes les Zdenka Sidonie selon le calendrier tchèque, le ciel en Tchéquie a été clair, à variable, et les températures diurnes se sont situées entre 26 et 29 degrés. Vendredi, le temps en République tchèque sera clair, à variable, et les températures diurnes s'échelonneront de 27 à 31 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à tous. Suite à la fuite d'un milliardaire soupçonné d'actes criminels, le chef de la police tchèque a été contraint de démissionner. Une affaire qui fait la une de tous les quotidiens à Prague. Dans sa lutte pour la sécurité routière, la Chambre des députés a adopté mercredi un nouvel amendement au Code de la route. Principale conséquence, le système de permis à points pourrait être instauré. Une importante délégation de chefs d'entreprise et de représentants politiques français est en visite en République tchèque tout au long de cette semaine. Nous écouterons son responsable nous donner plus de précisions. Le festival Théâtre des régions d'Europe se poursuit à Hradec Králové en Bohême de l'Est. Toute l'équipe de la rédaction française vous souhaite une agréable réception dans nos programmes. À la suite d'une bavure policière lors de l'enquête sur les activités criminelles d'un chef d'entreprise tchèque, le président de la police, Jiří Kolář, a présenté sa démission. Alain Slivinski.
L'affaire du milliardaire Radovan Krejčíř, soupçonné de fraude, association de criminels et préparation à un meurtre commandité, a été un coup dur, ou plutôt la goutte qui a fait déborder le vase pour la police tchèque. Lors de la perquisition au domicile de Krejčíř, le week-end dernier, ce dernier a réussi à prendre la fuite dans des conditions qui ne sont pas encore claires aujourd'hui. Cette bavure policière a mis le feu aux poudres du ministère de l'Intérieur, mais aussi dans le bureau du Premier ministre. Le siège du président de la police tchèque, le général Jiří Kolář, qui était déjà quelque peu branlant à la suite d'autres bavures policières dans le passé, comme celle de l'affaire des épouses Todola, auteur de meurtres en série que la police avait classé comme suicide, s'est écroulé. Le président de la police tchèque, Jiří Kolář, a démissionné ce mercredi. Le premier ministre, Jiří Paroubek, en visite officielle au Japon, a déclaré à ce sujet. Vous savez, je pense que c'était une bavure de la personne qui commandait l'unité de la brigade de lutte contre la corruption. Si le président de la police endosse une certaine responsabilité, je pense qu'il sait ce qu'il fait et je prends sa décision en estime.
proč to udělal. Já si toho jeho rozhodnutí vážím.
Le ministre de l'Intérieur, František Bublan, avait déclaré que des têtes tomberaient, ce qui est chose faite. Les chefs de la brigade de lutte contre la corruption et de celle de la criminalité financière ont été remerciés de leur service. En plus de cela, 10 policiers ont été suspendus. Le ministre de l'Intérieur n'exclut pas qu'ils puissent être obligés de quitter les rangs de la police et poursuivis en justice et déclare.
Probíhá šetření inspekce ministerstva vnitra a...
L'enquête de l'inspection du ministère de l'Intérieur a commencé et quand elle sera terminée, on examinera les résultats. La responsabilité et éventuellement la faute des différents policiers seront déterminées. Le président de la police, Jiří Kolář, ne se sent pas personnellement coupable de la bavure de ses subordonnés, mais reconnaît quand même les erreurs commises lors de l'opération policière. Il explique pourquoi, après avoir présenté sa démission ce mercredi, il ne partira que le 15 août. J'ai demandé à quitter mes fonctions seulement après la nomination du nouveau président de la police. En effet, la police, actuellement, doit résoudre beaucoup de questions globales et de la plus haute importance, touchant un grand nombre de domaines. Il semble que le service d'inspection du ministère de l'Intérieur aura encore du travail, car certaines informations laissent entendre que le milliardaire en cavale bénéficierait de contacts étroits dans les plus hauts milieux de la police tchèque. Ceci pourrait expliquer la facilité avec laquelle il s'est enfui.
Des changements radicaux que certains journaux qualifient de révolution sur les routes attendent les conducteurs tchèques. La loi introduisant un système de points pour sanctionner les infractions au code de la route, augmentant le montant des amendes et affermissant les compétences de la police vient de passer à la chambre basse du Parlement. Jarka Gisubilova.
Le projet d'amendement au code de la route, plusieurs fois reporté dans le passé et enfin adopté, réagit à la situation où les accidents de la route font chaque année près de 1300 morts. Ce que beaucoup de pays pratiquent déjà sera une nouveauté absolue pour les conducteurs tchèques, un barème de points pour sanctionner les infractions, donc ce qu'on appelle le permis de conduire à points. Le permis de conduire sera retiré pour une période de 12 mois au conducteur qui aura acquis son capital de points. Et ce n'est pas tout, le montant des amendes augmentera jusqu'à 50 000 couronnes pour les particuliers. La loi introduit l'obligation des phares allumés pendant toute l'année, l'obligation de siège pour enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, ainsi que le port de casque de cycliste pour les moins de 18 ans. La police aura le droit de retirer sur place le permis de conduire. Un changement essentiel concerne les camions. Le nombre d'accidents causés par ces derniers étant en hausse constante, il sera interdit aux camions de dépasser sur les autoroutes et les routes à deux voies. Le projet a un fort opposant dans le parti civique démocrate Odès. Ses députés ne l'ont pas appuyé, estimant que le système de points est injuste et ouvre la porte à la corruption. Reste à savoir si le projet passera au Sénat, où l'ODS a la majorité. Au cas où il serait adopté et signé par le président de la République, il entrerait en vigueur le 1er juillet 2006.
Une importante délégation française composée de représentants de l'administration d'État, des collectivités locales ou encore du monde de l'entreprise est à Prague tout au long de cette semaine. Leur objectif, réfléchir sur les questions de l'aménagement du territoire en France et en Europe. Mardi, ce groupe d'une cinquantaine de personnes a été accueilli au Sénat tchèque. Après une heure de discours et de questions-réponses, le responsable de la délégation française, Pierre Veltz, nous en a dit un peu plus sur l'objet de ce voyage.
Il s'agit de l'Institut des hautes études d'aménagement du territoire en Europe. Donc c'est un programme en fait de réflexion et d'échange qui regroupe des personnes qui ont un certain niveau de responsabilité mais qui appartiennent soit à l'administration d'État, soit aux collectivités locales, soit au monde de l'entreprise et qui se réunissent pendant un an pour réfléchir ensemble sur les questions d'aménagement du territoire en France et en Europe. Et dans le programme, il y a un voyage d'études et nous avons décidé cette année de faire le voyage d'études en République tchèque et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui.
Alors quel est le sens et surtout quel est le programme de cette journée ?
Alors le programme, c'est en fait une semaine. Nous passons une semaine entière à Prague et en Bohême. Le sens, c'est de... On s'interroge beaucoup en France sur ce que signifie enfin, l'élargissement, en tout cas l'ouverture à l'Est de l'Europe. Et donc, on a voulu voir sur place ce qu'il en était. Donc, on rencontre des responsables qui nous expliquent les formes de réformes administratives qui ont été menées ici. Et puis, on va également rencontrer des entreprises françaises et étrangères, voir un peu comment elles... Elle fonctionne dans le cadre à la fois national et dans le cadre européen. C'est vraiment pour essayer de comprendre sur place les mécanismes d'ouverture de l'Europe vers l'Est. C'est ça l'objectif de cette mission. Voilà.
Cette visite prend-elle un sens particulier après le nom français pour la ratification de la Constitution européenne?
Écoutez, ici nous sommes au Sénat, donc on a été reçus par une imposante délégation de sénateurs. Vous étiez une dizaine, hein, je crois, ce qui est quand même très impressionnant pour nous, on est très honorés et on a évidemment un peu débattu de ça. Je crois que tout le monde malheureusement a compris que le projet de constitution européenne maintenant avait quand même du plomb dans l'aile et que je crois qu'en République tchèque la question du référendum ne se pose plus vraiment, si j'ai bien compris. Je crois que ça n'enlève rien, comme on l'a vu ici, au sentiment de sympathie qu'il peut y avoir entre les Français et les Tchèques et au fait qu'on se situe toujours dans cette perspective européenne. Mais bon, il va falloir reprendre les choses sur des bases un peu différentes. Mais l'un des sénateurs présents a bien expliqué que il y avait dans la population tchèque deux choses. Il y a le point de vue par rapport à la Constitution, puis à l'adhésion générale à l'Europe. Bon, ce qu'il nous a dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est que l'adhésion générale à l'Europe n'était pas entamée par les avatars de la Constitution.
Plus de 200 spectacles présentés dans des salles et à ciel ouvert, des compagnies théâtrales de toute la République tchèque et de 8 pays européens. Une programmation bouillonnante qui mêle théâtre classique, marionnettes, théâtre gestuel et musique. Le festival Théâtre des régions d'Europe qui anime jusqu'au 30 juin prochain le noyau historique de Hradec Králové en Bohême de l'Est fête en pleine forme son 11e anniversaire. Magdalena Segartova a rencontré devant un chapiteau dressé dans le parc du centre-ville un des habitués du festival, Dominique Houdard.
Ce festival m'a permis de découvrir le théâtre tchèque que je connaissais déjà pas mal parce que je suis venu en 68 pendant le printemps de Prague et j'ai découvert deux grands auteurs, Havel et Topol, et j'ai monté une pièce de Topol en France au retour. Vous voyez, donc je suis assez proche de la culture tchèque. Bon. Ça a été une très belle opportunité pour nous de connaître ce festival parce que revenant tous les ans, ça nous permet de voir évoluer des grands metteurs en scène comme Moravec, de voir les marionnettes tchèques et de voir comment elles évoluent et comment elles sont encore très proches de la tradition mais avec des recherches quelquefois très étonnantes. Ça m'a permis de militer pour le théâtre tchèque en France.
Et comparé aux dimensions françaises, ce festival est quand même petit, non ?
Je ne trouve pas. C'est-à-dire, bon, il est aux dimensions de la ville. Bon, c'est pas le festival d'Avignon, mais je trouve beaucoup plus humain. C'est-à-dire que, à force de revenir, bon, on reconnaît des gens, des têtes. Voilà, il y a une dame qui vient de passer à vélo tout à l'heure près du chapiteau. Elle a dit, oui, j'ai vu Zazie dans le métro l'année dernière. Bon, à quelle heure vous jouez ce soir ? On a un vrai contact là. Alors que Avignon, c'est la fournaise et c'est le grand tourbillon. Donc, moi, j'aime bien ce festival à dimension humaine et à dimension d'une ville superbe.
Britain.
Metteur en scène et chef d'une compagnie théâtrale parisienne qui porte son nom et celui de Jeanne Huclin, Dominique Houdard est le père des personnages fictifs qu'il a baptisés les Padoxes. Il s'agit de créatures en latex à la mi-chemin entre l'homme et la bête, dans lesquelles glissent les comédiens. Les Padoxes, le public de Hradec les connaît bien et cette année ils sont de retour au festival. Mercredi, ils se sont présentés sous le chapiteau dans un spectacle inspiré des 4 saisons de l'année de Vivaldi. Ce jeudi, ils sont descendus dans la rue afin de découvrir la ville. Mais qui sont ces bonhommes, Dominique Houdard ?
Les Padoxes, c'est une envie que j'ai eue à un moment de notre existence de créer un personnage de théâtre pour notre époque. Personnage, c'est pas un rôle. Un personnage, c'est Arlequin, c'est Casparette, c'est Guignol, c'est Sganarelle en France, etc. Il y a assez peu de grands personnages de théâtre que les gens peuvent reconnaître facilement. Et c'est un peu ambitieux de ma part, mais je me suis dit qu'au XXe siècle, depuis Ubu, il n'y avait rien eu. Alors pour le XXe et le XXIe siècle, je propose doucement Paddox. Paddox, alors il fallait que ce soit un personnage un peu international, donc la langue française, non. Il est muet. Il s'exprime par les gestes et par la gentillesse. C'est à la fois un bébé et un vieillard. C'est un personnage qui ne sait rien. Il vient d'ailleurs et il ne s'impose pas. Et il essaie de s'assimiler à la population. Donc il agit par mimétisme. Alors au début, il y avait trois Paddox qui jouaient ensemble dans la rue, trois professionnels. Et on est venu il y a 5 ans avec les trois Paddox. Et puis, dès l'année suivante, on a fabriqué 40 costumes de Paddox. Et on est revenu parce que tout d'un coup, cette multiplication permettait, et c'était notre objectif, de faire jouer non pas des acteurs professionnels, mais des gens de la ville que nous visitions. Donc, il y a eu une bonne trentaine d'habitants de Hradec-Králové, la plupart du temps des jeunes d'ailleurs, des étudiants, qui sont venus travailler avec nous. Ça a été un très beau moment, très fort, la population ici a très très bien réagi avec l'humour qu'on connaît au Tchèque, et ça a été une belle rencontre.
Voilà, c'est donc à Hradec-Králové que se boucle ce tour d'horizon de l'actualité tchèque. Merci de votre attention, restez en notre compagnie, tout de suite vous retrouvez Alena Gebertova et son miroir de la société.
Miroir de la société, Alena Gebertova.
Monsieur Claude Coentanouj, prix Nobel de physique, a récemment séjourné à Prague, où il a donné quelques conférences. La physique a été naturellement le principal thème de l'entretien que j'ai pu enregistrer à cette occasion avec lui. Les scientifiques et chercheurs tchèques déplorent souvent que la recherche soit sous-estimée en République tchèque. Selon M. Tanouj, la même remarque est valable aussi pour ce qui est de l'état de la recherche en France.
Nous avons bénéficié tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 60, d'une période d'expansion considérable, où il y a eu énormément de moyens accordés, et la science française, après avoir connu un déclin dramatique pendant la Deuxième Guerre, s'est complètement régénéré. Il y a eu beaucoup d'écoles nouvelles qui se sont créées, de groupes de recherche de très grande qualité. Et après les années 70, le choc pétrolier, le support pour la recherche a petit à petit diminué. Alors nous vivons sur la lancée des années 60, qu'on appelle les 30 glorieuses, je crois. Et maintenant, on a de plus en plus de mal à conserver une place suffisante. Donc ce n'est pas encore dramatique, on a encore une population de jeunes chercheurs très brillants qui ont acquis une compétence, une expertise considérable. Mais si la situation continue avec les pénuries actuelles, je crois que là il y a de quoi être inquiet, parce que la pompe sera désamorcée, les jeunes étudiants s'orienteront vers d'autres carrières, ou bien ils feront un travail de recherche en France et ils iront aux États-Unis faire un postdoc, ils resteront. Et ça, c'est... Si vous voulez, je dis toujours qu'il faut, 20, 30 ans pour faire une équipe de recherche qui arrive sur le plan international à un niveau d'excellence suffisant, et ça peut être détruit en 2-3 ans. La recherche, c'est quelque chose de très fragile.
L'intérêt des jeunes pour la physique, pour la science en général, est-il toujours assez grand?
Je pense que les jeunes en particulier sont très excités par les raisonnements scientifiques, les découvertes. Ceux qui sont intelligents ont envie de continuer. Mais les conditions de la vie d'un chercheur sont devenues beaucoup plus difficiles qu'auparavant. Les salaires sont beaucoup moins attractifs que dans d'autres métiers comme avocat ou businessman. Ensuite, l'image s'est instaurée que quand on commence dans la recherche, après on a beaucoup de mal à avoir des crédits, à faire un laboratoire. Et ceci est un petit peu décourageant. Donc ça, c'est ça qui est un petit peu inquiétant, c'est que les jeunes ont l'impression que la recherche est un métier bouché, qui est trop difficile et trop aléatoire.
Pensez-vous que la construction de l'espace européen peut éventuellement améliorer la situation ?
Je pense qu'elle est essentielle, elle est décisive, parce que pour se comparer à un pays comme les États-Unis qui ont une population, un nombre d'universités de tout premier plan, il faut vraiment raisonner à l'échelle européenne. Si on prend l'ensemble des pays européens, il y a dedans la matière grise équivalente à celle qui est aux États-Unis. Si elle est bien gérée, si elle est gérée avec ambition et avec dynamisme, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas égale ou supérieure à celle des États-Unis. Mais c'est un grand chantier.
Est-il possible?
Les difficultés de l'unification qu'on constate actuellement ne sont pas encourageantes.
Laurent Soulier de France est venu à Prague, lui aussi, pour participer à la conférence La lumière et la matière. Représentant de la Fondation Sophia Antipolis, dont le but consiste à faciliter les échanges dans le domaine de la science, de l'industrie et de la culture, il s'est confié à propos de l'édification de l'espace européen.
Je dirais que c'est un nouveau challenge, au contraire, bien au contraire, puisque le parc de Sofia est un parc ouvert à l'international pour une vocation de recevoir les chercheurs, non seulement européens, mais les chercheurs du monde entier. Et nous espérons que le petit frein qui a été mis sur la construction européenne va au contraire permettre d'accroître, je dirais, la collaboration entre les différents chercheurs. Si je regarde ma petite carrière professionnelle, je travaillais auparavant à la Commission européenne, donc je suis un Européen convaincu. Un Européen convaincu, et c'est vrai que ce qui m'a fait choisir de travailler pour la fondation de Sophia Antipolis et le parc de Sophia Antipolis, c'était cette ouverture à l'international qui était sans aucun doute un aspect très important.
Vous coopérez donc aussi avec la partie tchèque ?
Nous coopérons avec la partie tchèque. Nous avions fait un programme il y a quelques années, une dizaine d'années, juste après la révolution de velours, afin d'accueillir des étudiants tchèques sur le parc de Sofia. Et ces étudiants avaient été placés dans des entreprises afin de les habituer à la gestion d'entreprises. Le mieux, c'était au niveau de la gestion des entreprises, et puis après, je dirais, au niveau de la science fondamentale, plutôt science, disons, au niveau de la physique, entre autres.
Quel défi pour la physique en ce début du 21e siècle ? Encore une fois, Claude Cohen-Tanoudj, prix Nobel.
Je veux dire, bon, on a évoqué tout à l'heure l'image que la physique, beaucoup de gens pensent que la physique est trop difficile, d'une part. D'autre part, beaucoup de gens pensent à tort qu'on a résolu tous les problèmes en physique et que maintenant la nouvelle frontière, c'est la biologie. Et je crois que c'est une erreur. Je crois que toutes les disciplines ont besoin les unes des autres. Et il y a énormément de questions fondamentales qui sont inconnues et qui sont encore pas résolues en physique. Je rappelle simplement qu'à la fin du siècle, du 19e siècle, avant l'année 1900, des gens disaient déjà que tout était compris en physique, après les travaux de Newton, de l'optique, de Maxwell, et que finalement tout était compris, que la physique était finie. Il y avait juste deux petits nuages, deux petits points qu'on ne comprenait pas. Et ces deux petits points, ça a été la révolution relativiste, et puis la révolution quantique, qui ont complètement changé la donne et qui ont ouvert toute une série de nouveaux problèmes. Donc dire que la physique est finie en ce moment, ce serait une grande prétention, parce que chaque nouvelle découverte en science, pas seulement en physique, en science, pose plus de questions que ce qui ont été résolues. Et de nouveaux horizons qui s'ouvrent, de nouveaux champs de recherche qui deviennent accessibles, et dire qu'on a tout compris, c'est une prétention insupportable.
L'année 2005 est l'année internationale de la physique. Quelles activités sont-elles à retenir, d'après vous ?
Bien, je crois qu'il y a énormément de conférences grand public, de réunions, de musées, d'expositions, de congrès. Et ceci me paraît quand même très positif dans la mesure où ces conférences, ces réunions attirent beaucoup de jeunes, beaucoup de monde, et que ça fait discuter de la physique. Ça remet l'accent, le projecteur sur, sur la physique. Et j'espère beaucoup qu'après cette année, il va y avoir plus de vocations qui vont se manifester.
Monsieur le professeur, vous êtes le lauréat de nombreuses distinctions. Quel rôle joue-t-elle pour vous ?
Je crois que c'est un encouragement extrêmement important, non seulement pour moi, mais pour mes collègues, mais les jeunes gens qui sont, les jeunes filles qui s'orientent vers la science, qui entendent parler d'une distinction internationale, sont intéressées et sont encouragées. Donc je pense que c'est un encouragement extrêmement important. D'un autre côté, c'est aussi beaucoup de, pas de tracas, mais beaucoup d'obligations nouvelles qui apparaissent et qui sont difficiles un peu à gérer. Bon, on ne peut pas se plaindre de ceci.
Notre invité aujourd'hui dans le programme Miroir de la Société, M. Claude Cohen-Tanoudj, prix Nobel de physique. Et c'est ainsi que prend fin notre programme en français d'aujourd'hui.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930.